Oblique. Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.
Il existe une société secrète qui envahit peu à peu nos villes.
Ni des hommes, ni des animaux, mais quelque chose qui est entre les deux.
Bonjour chers fidèles auditeurs et auditrices, alors vous êtes bien sûr Oblique, une émission là placée sous le signe de la musique, de la politique, pas forcément liée aux élections, hein, mais par rapport aux chroniques, de la Lettonie et du Liban. Bonjour à tous.
Bonjour.
Salut.
Donc bonjour Aja, alors que nous as-tu préparé aujourd'hui ?
Eh bien Manu, aujourd'hui on a une rubrique un tout petit peu rétrospective, mais on va découvrir un genre qui est le trip-hop oriental et comment cette musique alternative est en train de se retrouver dans beaucoup de films d'auteurs libanais.
Et toi Yann, je crois que...
Pour l'audio public, ce sera un autre ciné-poème de Nicolas Humbert et Werner Penzel.
Et puis toi, Victor.
Et ben moi, je vous amène en hôpital psychiatrique dans la Lozère.
Ah ben voilà. Quant à moi, quant à moi, je vais vous parler de My Favorite War, un documentaire hein, sur l'histoire de la Lettonie, diffusé donc au cinéma Nestor Burma pour une fois. Mais tout de suite, hein, on retrouve l'indispensable Justine pour l'agenda ciné de la semaine.
No one knew better than McCain that they'd get him all the same.
Bonjour tout le monde. Tout d'abord, un petit rappel pour vous dire que vous avez encore jusqu'au 24 avril pour profiter des rencontres du cinéma d'animation. Je vous fais tout de suite un petit aperçu de ce qui y est proposé ces prochains jours. Alors pour la journée du vendredi 22 avril, vous pourrez assister par exemple au programme de court-métrage à 14h au Centre Rabelais. La séance sera accompagnée par Christophe Liabeuf de l'Association française du cinéma d'animation et par Pierre-Alfred Héberard du festival Court-Circuit. Si vous avez plutôt envie de suivre les aventures d'une main coupée désespérément à la recherche de son corps, rendez-vous à 16h au Centre Rabelais avec le film « J'ai perdu mon corps » de Jérémy Clapin. Ou sinon, après un cocktail des rencontres en salle Pétrarque à 19h30, vous pourrez assister à la projection du film « Le sommet des dieux » de Patrick Imbert à 21h au Centre Rabelais. La journée du samedi 23 avril est tout aussi chargée avec par exemple à midi en salle Pétrarque Le tombeau des Lucioles d'Isao Takahata, mais aussi à 14h30 à la médiathèque Émile Zola, la projection du documentaire Boukrafil Mishmish, quand les poules auront des dents, de Tal Mikael, suivi d'un programme de court-métrage des frères Frenkel. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir également le très émouvant Millennium Actress de Satoshi Kon, qui sera projeté à 18h30 en salle Pétrarque. Le dimanche 24 avril, c'est donc le dernier jour des rencontres du cinéma d'animation et pour l'occasion, vous pourrez assister à l'avant-première du film « Ma famille afghane » de Mikaela Pavlatova au cinéma Diagonale à 11h. Le reste du programme se consacre un peu plus au jeune public avec par exemple « Princesse Dragon » d'Anthony Roux, projeté à 18h en salle Pétrarque. Pour le programme complet, je vous invite à aller sur le site de l'association Brand à part. Lundi 25 avril à 20h30, le cinéma Le Sémaphore de Nîmes projettera en avant-première le film Carnaval. La séance sera suivie d'une rencontre en présence du réalisateur Juan Pablo Félix et du producteur Edson Sindoni. Et enfin, mercredi 27 avril à 20h, le cinéma Utopia nous propose de découvrir ou redécouvrir un des chefs-d'œuvre de Federico Fellini, La Strada. La séance sera suivie d'une rencontre avec René Picard, connu entre autres pour être à l'origine du Cinémed. L'agenda culturel touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à très bientôt.
Merci Justine. Alors je ne sais pas si c'est dans le cadre de l'animation, mais le film dont je vais parler, My Favorite War, qui passe donc le 23 à Nestor Burma, est aussi un dessin animé sous forme documentaire. On écoute ça tout de suite. My Favorite War s'ouvre sur ces bonnes paroles en voix off. Hein. Un dicton dit « Heureux sont ceux qui n'ont pas à faire de choix. En grandissant, j'ai essayé de comprendre si cela pouvait être le cas, car j'ai grandi dans le pays soi-disant le plus heureux de la planète et tous les choix ont été faits à ma place. » Voilà. La narratrice, est aussi la réalisatrice, alors j'espère que j'ai bien le prononcer, Ilse Burkowska-Jakobsen, revient sur son enfance en Lettonie soviétique. Hein, elle retrace son trajet sur près de 20 ans, de la petite enfance à son entrée dans l'âge adulte, hein, en pleine guerre froide, ben, dans un pays où l'endoctrinement, hein, véritable sport national, a pour vocation de museler une population entraînée tout au long de la scolarité à maîtriser les armes à feu. Alors l'équation élève égale soldat, hein, n'a rien de caricatural, elle révèle le plan parfaitement organisé de l'ex-URSS, et peut-être même aujourd'hui. Hein. Le vrai visage du régime soviétique, hein, au fil des gouvernements en place, est décrit avec précision et froid, alors sous la forme d'un témoignage de la cinéaste qui évite, hein, toute tentative d'édulcoration en dépit d'un dispositif surprenant. En amont, elle s'est retrouvée piégée par son sujet puisqu'il n'existe pas d'archives ou d'images démontrant, ben, on va dire de manière objective, hein, ses propos et sa vision de la Russie dans les années 70-80, puisque le film se déroule à cette époque-là. Afin de contourner la fiction sans s'y soustraire, hein, complètement, hein, elle emprunte une voie qui a fait ses preuves, hein, de l'image manquante de Ritipan à Valse avec Bachir de Harry Wolfman, le documentaire d'animation, un procédé qui peut s'offrir des libertés narratives et esthétiques là où une reconstitution historique, bah, se retrouve phagocytée par des contraintes.
So here I look. My grandpa, with my mom, and with my dad, on my very own little green planet.
Alors c'est assez curieux, il parle anglais, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de chercher une signification, hein, peut-être pour que ce soit vu par le plus grand nombre de gens, certainement. Alors le recours au dessin animé traditionnel est original, hein, dans une orientation, alors on va dire plus pédagogique que didactique, hein, pédagogique car attractif pour un public néophyte, à commencer par le jeune public auquel le film est en partie destiné. Alors aussi effrayant et édifiant soit-il, My Favorite War, hein, privilégie l'expérience intime, n'étant jamais figé dans sa critique d'un système autoritaire qui présente des similitudes, bah, avec l'actualité récente. Hein. Les dessins réalisés par Svein Nyhus, illustrateur jeunesse en Norvège, possèdent une étrangeté, un mélange de froideur et de douceur, avec des personnages aux expressions très tristes et assez inquiétantes. Alors conçu par l'artiste Laima Puntul, les décors baignent dans une atmosphère grisâtre, alors en adéquation avec une animation assez statique, mais qui convient très bien au sujet. Les scènes de groupe à l'école, hein, notamment lorsque les personnages se déplacent un peu comme des automates, font froid dans le dos et traduisent de manière frappante le concept même de régime totalitaire. La grande histoire donc se mêle aux souvenirs familiaux de Hilde, qui évoque la figure résistante de son grand-père et la soumission de ses parents, membres du parti communiste. Mais surtout, elle relate ses années d'apprentissage, à l'issue desquelles elle va se libérer d'une idéologie guerrière, alors pour aiguiser son sens critique, puisque par la suite, elle va devenir donc journaliste et fuir donc même le pays, puisqu'elle vit actuellement en Norvège. My Favorite War, bon, à travers l'autoportrait d'une combattante pour la paix et la liberté, bah, c'est un beau documentaire, hein, sur l'histoire de la Lettonie, hein, dont nous ne connaissons finalement que très peu de faits par manque d'informations, bah, occultées par une propagande qui a merveilleusement fonctionné pendant longtemps, qui fonctionne très bien aujourd'hui. Hein. Un témoignage indispensable, hein, dominé par une esthétique séduisante et cohérente. Donc le film est diffusé le 23 avril au cinéma Nestor Burma, accompagné par Cécile Cabane, médiatrice culturelle. Alors, film conseillé au jeune public, mais, alors, c'est indiqué sur le programme, à partir de 13 ans.
No.
Et je laisse la parole à Victor pour une interview de la réalisatrice pour les Jours Heureuses.
Oui, tout à fait, les Heures Heureuses. Donc du coup, un documentaire donc, qui retrace en fait l'histoire du centre hospitalier psychiatrique de Saint-Alban. Donc Saint-Alban, c'est un petit village situé en Lozère et qui a vu naître à partir des années 40 des nouvelles méthodes en fait de prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales sous l'impulsion de plusieurs médecins, mais principalement de François Toscaliès, fondateur de la psychothérapie institutionnelle. Alors c'est un concept en fait assez simple. À Saint-Alban, on n'enferme pas les malades, ils participent à la vie quotidienne de l'établissement et également à la vie en fait avec le village voisin. Parmi les activités les plus célèbres et qu'on voit dans le film, il y a la rédaction d'un journal, un journal qui reste interne à l'hôpital, auquel participent les patients, un journal qui s'appelle Trait d'Union, qui se veut donc un trait d'union entre le personnel et les soignés. Le film, donc Les Heures Heureuses, est intégralement constitué d'images d'archives, des images assez dingues et très belles à voir, filmées en Super 8 au sein même de l'institution, qui donne à voir sur plusieurs décennies l'organisation de cette vie collective. Les archives sont accompagnées d'un commentaire, c'est des entretiens en fait avec le personnel soignant réalisés aujourd'hui, mais c'est des entretiens dont on ne voit aucune image, et donc il n'y a aucune image du présent qui vient parasiter ces images du passé. On reste sur une seule et même narration. Voilà. On entre assez instantanément en fait dans l'effervescence qui caractérise ce lieu. On assiste à la réalisation des œuvres de certains patients comme Auguste Forestier ou Marguerite Sirvins, qui sont des noms aujourd'hui assez connus dans l'art brut. L'art brut, pour faire simple, c'est l'art réalisé par des fous. Et tout le film est rythmé donc par une succession de fêtes auxquelles participent les patients, les soignants et le village, ou encore, ce qui à l'époque est très novateur, des départs en vacances dans un bus affectueusement nommé l'Abeille, où tout le monde part à la plage pour plusieurs jours. Et, enfin, c'est des images très touchantes. L'enregistrement que vous allez entendre est donc un extrait de la rencontre avec la réalisatrice Martine Derès, qui avait lieu dans le cadre du cycle Filmer la folie au cinéma Utopia. La séance était présentée par Jean-Pierre Montaldi, psychiatre, et Joseph Mornay, psychologue et psychothérapeute, qu'on entend également un petit peu intervenir dans l'extrait. Et j'ai choisi donc d'entrecouper cet entretien de deux extraits du film qui vous donneront donc la possibilité d'entendre également ces témoignages.
Il y a 60 ans, dans un hôpital de Lozère, dans un des départements les plus déshérités du pays, on n'attachait pas les malades. Aujourd'hui, partout, digicode, grillage, caméras de surveillance, camisole, chambres d'isolement. Tous les dispositifs sont là pour nous faire oublier qu'à Saint-Alban, un autre moment de la psychiatrie a eu lieu. Mais là, dans l'ancienne bibliothèque de cet hôpital, au pied des centaines de livres abandonnés sur les étagères, j'ai découvert un carton. Un carton rempli de bobines de films. J'ai alors vu surgir ce que les anciens infirmiers m'avaient raconté.
Les archives, donc c'est les infirmiers qui filmaient, c'est un peu comme on pourrait dire des films de famille en fait. Il y avait des caméras à l'hôpital et les infirmiers filmaient pour comme il y avait les veillées au club. En fait, ils passaient les films. Ceux qui allaient en excursion y allaient, étaient filmés. Ceux qui n'y avaient pas été voyaient l'excursion à la veillée du club. Les fêtes, on filmait les fêtes. C'est un peu, oui, comme dans les familles à l'époque, il y avait des caméras Super 8. Donc il y a d'une part ces films-là. Qui sont, au départ, on disait c'est du film de famille. Moi, je ne pense pas que ce soit tout à fait du film de famille, parce que dans les familles, on filme les mariages, les communions. Eux, ils ont filmé un enterrement, ce qu'on ne filme jamais dans les films de famille. Et il y avait, d'autre part, les films tournés par le docteur Toscaïès, qui étaient véritablement des, enfin, au vrai sens du terme, des films institutionnels, puisque c'était des films à visée pédagogique, pour expliquer la mise en pratique de la psychothérapie institutionnelle au moment où il la faisait, quoi. Donc les films qu'il y avait. Mais bien sûr, ça nous paraît extraordinaire qu'ils aient filmé, mais je crois que ça participe du même mouvement qui était de décrire dans le journal Trait d'Union, qui est très très important, ce journal qui ne sortait pas de l'hôpital. Ils avaient tout pour le fabriquer, ils avaient les presses, ils avaient, enfin c'est assez incroyable. Donc le fait d'avoir filmé, pour moi, ça rejoint le fait que à ce moment-là, à Saint-Alban, il y avait une édification permanente, on était en création permanente. Et donc ça les a menés à inscrire leur propre histoire au moment même où ils la vivaient, à mettre en forme leur propre histoire, parce que c'est pas juste avoir enregistré l'image, mais que ce soit le journal Trait d'Union ou les films, c'est vraiment inscrire ce qu'on est en train de faire. Donc ils font œuvre de création au moment même où ils vivent. Quoi.
Ce qui est très intéressant aussi, c'est que quand même, si on revient dans les années 40, 41, 42, et puis 50, même 50, utiliser aussi la caméra de cette manière-là, dans le soin, dans la création d'un espèce de collectif thérapeutique, c'est quand même quelque chose aussi qui est très très avant-gardiste, on pourrait presque dire.
Mais en même temps, je pense, moi, je vois, je pense pas que ce soit une... c'est pas une volonté de filmer, de se servir de l'image. Enfin, moi, c'est pas comme ça que j'ai trouvé les films et que je les ai vus. C'est-à-dire que c'est moi, je vois autant l'infirmier qui filme que ceux qui sont filmés. C'est-à-dire que l'infirmier se découvre lui-même filmeur au moment où il le fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai ouvert le film avec la parole des infirmiers et que je le termine aussi avec eux, parce que c'est eux qui m'ont entraîné dans cette histoire, puis eux, bah, c'est nous.
Vous l'aviez pas vu, cette photo?
Ça, c'est la psychiatrie de l'époque. Regardez le gamin avec...
Oui, vous voyez, il y a le gamin.
C'était l'enfant de...
De membre du personnel, qui était là, en promenade.
Ça, c'est un malade, et ça, c'est un enfant du personnel, ça, vous en êtes sûr. Hein. Vous voyez qu'on n'en avait pas tellement peur. Hein. Mais jamais, j'ai jamais mis la camisole à un malade.
La vie collective dans l'hôpital, elle est importante pour tout le monde. Il n'y a pas une volonté des soignants en direction des malades, c'est que la vie collective, au sortir de la guerre, elle est à égalité pour tous. Et c'est les villageois qui montent à l'hôpital. C'est-à-dire que les fêtes, elles sont sur l'esplanade de l'hôpital. Toute la vie du village, elle était à l'hôpital.
Les choses étaient en place au niveau de l'hôpital. Il y avait le club qui s'occupait des activités, les salons de coiffure, l'atelier photo, la bibliothèque, l'atelier cinéma, la cafétéria qui tournait avec deux personnels et des malades qui faisaient tourner la boutique. Là. Et puis, c'est le début où les infirmiers partaient déjà en congé. Nous, on a des congés, on part en vacances, mais les malades, ils n'ont pas de vacances. On s'est mis autour de la table, on en a parlé avec les médecins, on en a parlé en bureau du club avec les malades, et c'est là qu'ils ont dit, nous, on a envie aussi. Dans nos réunions toutes les semaines, on parlait de tout ce qui se passait, bien sûr, on partait en vacances, on voulait partir en vacances. Et c'est là qu'on a acheté, que Marius a acheté l'abeille, en tôle.
Et si vous souhaitez en apprendre plus sur Saint-Alban, le film Les Heures Heureuses était donc présenté en avant-première et sortira prochainement. On vous tiendra informé de ses prochaines diffusions. Et en attendant, si vous souhaitez, vous pouvez également vous diriger vers le musée d'art brut de Montpellier qui propose en ce moment même une superbe exposition sur Gérard Latier, un artiste ardéchois qui peint souvent avec humour des histoires de la mémoire populaire de sa région.
Merci Victor. Et maintenant, c'est à toi, Raja, pour un retour pour nous parler de trip-hop dans le cinéma libanais.
Et oui, merci beaucoup Manu. Aujourd'hui donc une rubrique, comme j'ai dit, rétrospective sur la musique alternative au cinéma libanais, mais surtout un focus sur le musicien Zaid Hamdan en particulier. Zaid est une figure de proue pour de multiples artistes et groupes underground de la région du Proche et Moyen-Orient. Pour ceux à qui son nom est encore inconnu, Zaid Hamdan était en 96 le fondateur du groupe Soap Kills et initiateur de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le trip-hop oriental. Donc je vous passe un petit extrait de Soap Kills. Donc Zaid avait été désigné par Alain Tasso, auteur chevalier des arts et des lettres, comme porte-parole et artiste emblématique du Liban et de sa génération. Comme nous l'avions dit lors de notre dernière rubrique Cinéma Libanais, c'était le fondateur du collectif Lebanese Underground et son parcours a récemment fait l'objet d'un documentaire, Yalla Underground, du réalisateur Farid Eslam, disponible sur YouTube TV et Apple TV, ainsi que sur Arte. Aujourd'hui, compositeur de plus d'une quarantaine de BO de films à l'international, dont quelques-uns sont répertoriés sur sa page IMDb, dont je vous invite à consulter pour les retrouver. Ses débuts de composition, c'était pour des films de court-métrage, dont ceux de Cendre, de Khalil Jerej et Johan Hadjitomba, de couple de réalisateurs que nous avons déjà survolé sur Oblique, et ensuite pour la web-série Shankaboot. Son style mélange l'électro, l'oriental classique, le reggae, ainsi que des paroles de chansons écrites en dialecte local ou en anglais. Donc le tout reflète sa génération, tiraillée entre des influences occidentales, un désir de liberté et d'émancipation d'une classe politique envahissante et d'une nostalgie profonde pour les grands classiques, comme un retour aux racines à la recherche du Liban de l'âge d'or avant la guerre civile. C'est en 2011, pour le film de Daniel Arbid, Beyrouth Hotel, que Z espère enfin percer au plan international son travail pour le cinéma. Mais manque de chance, le film est considéré dangereux pour la stabilité du pays et par les autorités libanaises et il se voit donc interdit de projection. Z devra attendre un peu plus longtemps pour avoir une reconnaissance plus ample. Je vous passe un petit extrait de la BO de Beyrouth Hotel. Donc entre-temps, Z y continue de produire des maquettes de BO de films, ceux de Nadine Labaki notamment, et toutes qui ont été signées par l'artiste Khaled Mouzanar. Ses compositions sont bien connues à l'international, et elle laisse pourtant la vedette à Nadine Labaki qui, ironiquement, se faisait comparer par le théoricien de cinéma libanais Joseph Korkmaz à Borat pour la représentation de son pays, donc dans son livre en 2019. présence du cinéma libanais, il dit en parlant de son film Caramel, « Caramel est en passe de devenir un phénomène de société et prototype d'un premier film emblématique d'une nation et d'un peuple, à l'instar du Red Aristan, labellisé par le film interprété par Sacha Baron Cohen et le personnage
c'est
de... »
C'est elle qui a fait Capharnaüm, je crois. Ah oui, c'est un vrai Capharnaüm.
Ouais, je me rends compte que cette phrase, il est pas cool avec elle, mais bon, c'est assez intéressant de lire son avis. Et puis donc en 2016, Z fait la BO de la comédie romantique Baraka rencontre Baraka et c'est là qu'il démontre une amplitude et un potentiel, il a une panoplie de musique qu'il peut composer. Il enchaîne avec le documentaire Un visa pour la liberté et Mr. Gay Syria. Et s'ensuit donc une liste d'une vingtaine de films à l'international. Et pour illustrer la diversité des styles qu'il a composés récemment, je vous propose d'écouter la BO de Martyr, donc de Mazen Khaled. C'est un film que je conseille vivement. Ou même du film « Souvenir inoubliable d'un ami » de Wissam Sharaf qui, en 2018, a été projeté à la 41e édition du Cinémed. Son travail a été primé l'année passée, en 2021, le prix JAM de la meilleure musique pour le film Costa Brava de Mounial à la 43e édition du Cinémed, donc festival qui s'est déroulé à Montpellier. Et toujours fidèle à la scène du cinéma d'auteur ou underground libanais, il poursuit ses compositions auprès de réalisateurs bien déjantés, comme pour la musique du film State of Agitation du réalisateur Eli Khalife, que je vous ferai découvrir lors de notre prochaine rubrique Cinéma libanais.
Merci Raja. Et puis on poursuit avec la musique, avec l'audioblique.
Audioblique, deuxième ciné-poème de Nicolas Sambert et Werner Panzel, Middle of the Moment.
Thank you.
Au générique du deuxième de ce ciné-poème des cinéastes suisses et allemands qui date de 1995, Middle of the Moment, on voit écrit « Ciné Nomade présente », une production ciné nomade. Ce nom donne le ton de ce film en noir et blanc et 16 mm qui est une évocation vagabonde de trois modes de vie nomades, les Touaregs du Sud-Sahara, une troupe de cirque en France et celle du poète américain Robert Lax. Comme dans Brother Youssef, l'autre ciné-poème dont il était question dans Audio Oblique la semaine dernière, pas d'exhaustivité, pas de discours, pas de voix off. C'est en fait quelque chose qui est à l'opposé d'un documentaire classique. Il s'agit plutôt d'un regard poétique, cinématographique plutôt qu'ethnologique et sociologique, sur des modes de vie hors normes. La musique et le son, hors cadre ou dans le cadre, hein, fait par les personnes filmées, est toujours au centre. Et il y a une quatrième figure du nomadisme qui plane tout le long de ce ciné-poème, c'est celle du musicien-compositeur Fred Fries, qu'on entend ici à la guitare, mais il joue aussi du violon, divers claviers, des effets. Et sa musique accompagne les scènes de vie quotidienne, de travail, l'installation, le départ des camps, le voyage, divers gestes comme faire du feu dans le désert ou les activités qui sont liées à la naissance d'un animal. Donc c'est lui qui fait un petit peu le lien entre ces trois types de nomadisme.
Is, was, isn't, will be, won't.
Dans ce montage, on a pu entendre les chants de Touareg, la voix de Robert Lax et la chanson d'un artiste gitan. Middle of the Moment, centré autour de ces, enfin, qui navigue autour de ces trois figures, agit comme un kaléidoscope non didactique qui, en montage alterné et avec un lyrisme très musical, rend hommage aux gens qui passent, mais ne sont pas rien, hein, pour pervertir une formule un peu sinistre d'un personnage présidentiable. Voilà, ça c'est le générique de fin de ce film, de ce ciné-poème de Nicolas Humbert et Werner Penzel. La musique de Fred Fries, personnage qui est au centre du prochain ciné-poème de ces deux cinéastes et qu'on évoquera dans le prochain audio-oblique. Pour l'heure, Middle of the Moment eh ben, est disponible. En DVD, il y a deux éditions, édition documentaire sur grand écran, avec les deux autres, avec Brother Youssef et le troisième, Step Across the Border. Il est aussi en édition simple, avec une très belle édition Winter et Winter, ça c'est en DVD. Et puis il y a la musique à part, qui est un très très beau disque en CD, donc édité par Rec, enfin réédité plutôt, parce que Rec, on va avoir du mal à le trouver, par Fred Records. Voilà, c'était donc Middle of the Moment.
Merci Yann, eh bien c'est la fin. J'espère qu'on va vous retrouver tous la semaine prochaine. Donc voilà, je voudrais remercier Anna à la technique, hein. On va remercier aussi le cinéma Utopia, le Diagonal, le cinéma Nestor Burma, n'oublions pas. Et puis, même Artus, allez, parce que la semaine prochaine, je vais certainement parler d'un film Artus. Voilà. Bonne semaine.
Adieu.
Au revoir.
Adieu.
Merci.
Oblique. L'émission qui regarde le cinéma de travers.